Bonjour à chacun et à chacune. Je vous salue dans le plus beau de tous les noms, dans le nom de Jésus, de Yeshua, celui qui est venu, qui nous a fait battre le cœur du Père à notre dimension humaine sur cette terre. Nous avons le cœur de Dieu à travers tout le ministère de Christ, sa venue, sa mort, sa résurrection, et par la puissance du Saint-Esprit, il vit en nous. Il vit en toi ? Oui ? Ça se voit qu'on n'est pas en Afrique, hein ? Il vit en toi ?
Oui !
Donc tu n'as rien à craindre. Amen ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je m'appelle Gilles Le Sieur, comme la mayonnaise, comme l'huile. Pas le sueur, le scieur. Voilà. Je suis, j'appartiens à Dieu depuis 51 ans. Je faisais partie de la mentalité de 1968, ni Dieu ni maître, interdit d'interdire. J'étais un rebelle, j'étais un anti-tout. J'en voulais à toute la société, parce que je voyais que rien n'allait dans la société. Jusqu'au jour où j'ai eu la révélation de Jésus-Christ en pleine nuit à 4 heures du matin dans ma chambre. Et j'ai été touché par son amour. Je n'ai pas été touché par quoi que ce soit d'autre que par son amour. J'avais dit tellement de bêtises et de mal contre lui que j'étais conscient que ça n'allait pas dans ma vie, mais quand il se présente, il vous touche dans votre cœur, et qui vous fait pas un mot de reproche, mais qui vous pardonne. Waouh ! Là, vous êtes retourné comme une crêpe bretonne. Là. Ça vous retourne. Et je l'aime, je le sers. J'aimerais encore plus l'aimer, j'aimerais encore mieux le servir. Mais rien n'est plus digne que de servir Jésus-Christ. Hein ? Il pourrait nous présenter ses mains percées en disant « Mais c'est pour toi. » C'est pour toi. Il le fallait pour que je puisse te pardonner. Il le fallait pour qu'on soit dans l'éternité ensemble. Et c'est pour ça que c'est sérieux. Alors, je suis pasteur, moi, en Normandie, 1h30 de route d'ici, c'est pas très loin. Hein, et peut-être qu'on va venir à quelques-uns parmi les chrétiens d'Ifto pour se joindre à vous le samedi 24. Le samedi 24, je sais que vous avez un séminaire, et j'ai demandé à André s'il n'y avait pas de problème, pour vous encourager. On viendra spécialement pour vous encourager. Je sais que vous avez besoin d'être encouragé. Et nous avons un ministère d'encouragement. Nous avons un ministère de réconciliation. Nous avons un ministère pour pouvoir nous bénir mutuellement. Donc, quelques-uns parmi nous, je ne sais pas du tout combien de personnes viendront. Et pour moi, cette journée, c'est une journée spéciale. Pourquoi ? Parce que ce sera l'anniversaire de ma femme. Alors, je lui dis, ça ne te pose pas de problème si je vais à Aubergenville ? Il dit, non, t'inquiète pas, ce n'est pas une question de jour. On fêtera ça 2 jours après. Ça sera le lundi. Ma femme aura 71 ans le 24 février. Voilà, on n'est pas de la première jeunesse, hein, mais bon, on est quand même des jeunes centenaires en formation, quoi. D'accord ? C'est une très grande joie d'être là parmi nous. J'aimerais vous dire que vous êtes dans nos cœurs. Je dis pas dans mon cœur, mais dans nos cœurs, parce que ma femme, mes responsables à IFTO, ils vous portent aussi dans leur cœur. Hein, ils sont autour pour pouvoir aussi vous bénir, parce que ce sont les intérêts du royaume, quoi. Hein, on n'est pas là pour travailler pour notre clocher, on est là pour les intérêts du royaume. Alors, j'avais tellement de sujets de pouvoir vous apporter. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui dois savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ce que je veux vous apporter, en fin de compte, je ne veux rien vous apprendre. Hein, parce que je veux vous apporter des choses très basiques. Je vais vous apporter des choses très basiques. Et vous savez, les choses basiques sont quand même fondamentales. Parce que la base d'une maison, c'est quand même les fondements. Les fondements d'une maison, c'est la base. Et la solidité de la maison, c'est quand même la base, c'est les fondements. Et je vais revenir à des bases qui sont fondamentales, que nous connaissons, que nous savons, et qui malheureusement, dans notre quotidien, c'est dans un casier quelque part dans notre tête, mais ça a besoin de descendre dans le vécu. Et on va partager sur la nécessité de nous aimer. L'amour couvre une multitude de péchés. La nécessité de vraiment de nous aimer, parce que c'est ce chemin-là qui nous permet de connaître Dieu. On va apprendre à le connaître. Alors, avant d'ouvrir la parole, on va s'incliner devant lui. Je suis conscient que je ne peux rien sans lui et que vous-même, vous ne pouvez même pas recevoir, avoir le bénéfice de tout ce qui avait été dit s'il n'y a pas sa grâce. Et c'est pour ça que je veux qu'on s'incline devant lui. Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous as donné, ce qui était le plus cher à ton cœur, ton propre Fils. Nous te sommes redevables, Seigneur, entièrement. Nous avons tellement offensé ton cœur, blessé ton cœur. Nous avons vraiment meurtri, Seigneur, tout ton cœur à cause de nos péchés. Et nous en sommes conscients. Et parce que nous sommes conscients de cela, nous sommes conscients que de la puissance de ton amour pour pouvoir venir nous sortir de ce marasme du péché qui nous environne tellement facilement. Nous te remercions de ce que tu es notre vraie solution. Tu es vraiment le chemin. Père, tu nous l'as manifesté dans ton Fils. Nous nous inclinons devant toi et Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Viens m'aider, Seigneur, et mets tes paroles dans ma bouche. Et viens aider mes bien-aimés à les recevoir, afin que tu sois élevé et glorifié. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Première épître dans l'Évangile. Certains confondent de temps en temps. L'apôtre Jean, il est appelé l'apôtre de l'amour, mais nous oublions que l'apôtre de l'amour, un jour, a dit à Jésus, quand les Samaritains n'ont pas reçu Jésus, il a dit, « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie pour faire descendre le feu du ciel ?» Je pense qu'Hitler, il n'aurait pas dit mieux. Hein. Ça ne s'appelle pas de l'extermination, ça ? Vous avez déjà réfléchi à ça? Et c'est dans la bouche de l'apôtre de l'amour. Capable de dire ça. Et Jésus dit, mais tu ne sais pas de quel esprit tu qui te fait dire ça, quoi. Je vous dis ça en introduction parce que nous sommes confrontés à la même chose. Nous avons une volonté d'aimer et mais par contre, des fois, on ne sait pas de quel esprit qui nous anime. Voilà ce que cet apôtre de l'amour, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit dans son épître au chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Connaître. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je lis très doucement parce que c'est tellement important. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. et son amour est parfait en nous. Vous voyez que cet apôtre de l'amour, on l'appelle comme ça parce qu'il avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus et qu'il parle énormément d'amour dans ses épîtres, mais il nous transmet le cœur de Dieu. Et alors, il est toujours facile de nous dire « aimez-vous les uns les autres », mais combien il est beaucoup plus difficile de rentrer dans cette dimension d'amour. Nous sommes dans un contexte un peu particulier en 2024. Si nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous, nous nous rendons compte que le retour du Seigneur s'approche de plus en plus. J'écoute régulièrement aussi les commentaires de rabbins qui parlent justement de la venue du Messie. Et pour eux, c'est d'une évidence que le retour du Messie est excessivement... Enfin, eux, c'est pas le retour, c'est la venue du Messie. Mais nous savons que c'est la même personne, nous. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, etc. Vous connaissez, hein. Mais nous sommes vraiment dans des moments stratégiques. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons absolument faire attention à la manière que nous suivons Jésus. Jésus n'est jamais venu apporter une religion. Il est venu nous instituer une relation avec celui que nous avons perdu de contact à cause du péché. Et tout est fait pour que nous soyons un jour ensemble pour l'éternité. Et comme dit le prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sérieux d'être chrétien. C'est important que de dire « je suis chrétien ». Parce que l'honneur de Dieu peut vraiment être touché en disant que je suis chrétien et si j'ai des comportements qui offensent son cœur. Jésus nous a donné tout son amour. Il nous a donné vraiment... non seulement son amour en mourant sur la croix, mais il nous a laissé tout l'exemple à suivre pour pouvoir que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. Une des choses les plus difficiles, c'est justement de vivre cette réalité d'amour. Je vais développer ça tout à l'heure en avançant. Nous sommes dans les temps de la fin et Jésus dit dans Matthieu 24, 12, il dit « parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et cet amour du plus grand nombre qui se refroidira est une des marques des temps de la fin aussi. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, est-ce que moi, dans ma vie, est-ce que mon amour pour toi s'est refroidi? Comment je peux savoir si mon amour pour lui s'est refroidi? En examinant ma vie pour voir comment j'aime mon frère et ma sœur que je vois, comment j'aime ma femme, comment j'aime mes enfants, comment j'aime peut-être mes collègues de travail, et surtout au sein de l'Église, comment j'aime chacun et chacune, sachant que nous sommes tous différents, et cette différence, elle est voulue par Dieu. Quel challenge! Quel challenge! On pourrait dire « mission impossible ». Hello ? Et pourtant, c'est un ordre. Nous n'avons aucune négociation à faire avec. Donc là, on est vraiment mis au pied du mur. Si je dis « Seigneur, je t'aime, je veux te suivre », ok, ouais. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas plus grand menteur quand les chrétiens, parfois, chantent les beaux cantiques qu'ils chantent. Parce qu'il y a tellement de décalage entre les beaux cantiques qu'on chante et nos vies. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, mais simplement pour qu'on réfléchisse, pour qu'on arrive à être en harmonie, en diapason avec sa pensée et avec ce que nous proclamons dans les chants ou ce que nous entendons à travers une prédication. Il est absolument important de bien réaliser que nous sommes dans ces temps qui se concentrent de plus en plus sur le retour du Seigneur et tôt ou tard, nous serons confrontés avec lui. Je ne sais pas si vous avez la crainte de Dieu, mais plus moi je vieillis, plus cette crainte de Dieu, elle grandit. J'ai la crainte de Dieu et j'ai été deux fois confronté à la mort et ça change notre façon de penser sur la façon dont on vit ici-bas. Si ce matin, dans le partage que je vais vous apporter, ça peut vous faire aller plus loin dans la dimension de l'amour. On aura gagné vraiment un pas de plus pour que le Seigneur soit glorifié. Tout le monde connaît Jean 3, 16. Ouais. Peut-être moins de personnes connaissent 1 Jean 3, 16. Allô? C'est facile à retenir, c'est la même référence, sauf que un, c'est l'Évangile, et l'autre, c'est l'Épître. Et nous avons un parallèle incroyable entre Jean 3, 16 et 1 Jean 3, 16. Dans 1 Jean 3, 16, voilà ce que Dieu nous dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, toujours un ordre, un impératif, hein, nous devons donner notre vie pour qui ? Pour nos frères. Donc la relation verticale a un reflet sur la relation horizontale. Pour nos frères. Dans Jean 3, 16, c'est Dieu qui a tout donné, sa vie, pour nous. Il nous donne, il a démontré son amour hein, en ce que Jésus est mort sur la croix. Je reçois, j'accepte et je le suis. Suivant Jésus, je suis projeté dans 1 Jean 3, 16. Vous comprenez ça ? Le parallèle de ce que Dieu m'a donné, le parallèle doit se projeter sur les choses terrestres. Toute ma relation que je vis avec Dieu doit avoir une projection sur le plan terrestre. Si je ne projette pas sur le plan terrestre ce que je vis sur le plan céleste, ce que je crois vivre au niveau céleste est une illusion, est une séduction. C'est intéressant parce que nous avons un moyen hein, pour examiner notre foi, pour voir la température de ce que je vis avec Dieu pour ne pas que je sois dans l'illusion ni dans la séduction, j'ai un moyen de contrôle. Comme à l'hôpital, à 16h, on prend la température. Alors, je ne dis pas de prendre la température, mais bon, maintenant, comment j'aime mon frère et ma sœur ? De quelle manière je vais l'aimer ? Est-ce que je vais l'aimer de la même manière que Jésus m'a aimé ? Donc ça c'est, ce sont les rails, ok ? Alors, à partir de là, on sait que on peut pas négocier avec Dieu, là. On peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation, vous savez. En France, on aime négocier avec la CGT et tout ça, mais bon, avec nous, il n'y a pas de négociation avec Dieu, parce qu'il a toujours raison. C'est pas nous qui avons toujours raison, c'est lui qui a toujours raison. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à réfléchir. Il faut qu'on apprenne à penser la parole. Pour pouvoir la vivre, il faut qu'on se remette en question, pas pour nous accuser, loin de là, au contraire, pour progresser, pour se rendre compte des choses qui n'ont pas été dans ma vie. Et ça, c'est pour tout le monde. Bonne nouvelle, c'est qu'on est tous dans la même barque dans ce domaine. Donc, il n'y a personne qui est pointé du doigt. Hein. Moi, je suis dans la même barque avec vous. OK. Alors, on va se poser quelques questions par rapport à l'amour. À l'amour qu'on se doit. Et juste une petite parenthèse, hein, on a lu que quiconque est né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu, et il est dit, il connaît Dieu. Et je vais m'arrêter avant de vous porter les réflexions qu'on peut voir ensemble. C'est important le mot connaître. En hébreu, le mot connaître, c'est le mot pénétrer. C'est exactement le même mot, pardonnez-moi, hein, quand un homme connaît sa femme. Et c'est exactement le même mot qui est employé. Et nous savons que la relation maritale qu'on a avec nos épouses a un parallèle avec la relation avec Dieu et son Église. Il y a toujours un parallèle qui fonctionne ensemble. Et Dieu veut quelque part pénétrer en nous. Et d'ailleurs, dans l'acceptation de Christ dans ma vie, dans mon cœur, l'apôtre Pierre me dit que Dieu, il met une semence incorruptible. Et le terme en grec, c'est le sperma. C'est le sperma de Dieu. C'est écrit textuellement dans l'épître de Pierre. Dieu veut déverser sa semence. Il veut mettre la semence dans son Église, Parce que c'est dans cette semence qu'il y a la réponse à ce grand défi que nous avons en face de nous, c'est de nous aimer comme lui, il nous aime. C'est dans cette semence-là, mes bien-aimés. Il n'est pas question d'un amour humain, d'un amour sentimental, de l'amour philéo, ami, hein, qui vient de notre nature. Nous avons aussi une capacité d'aimer. Hein. Il y a des gens dans les clubs de foot ou autres qui sont capables de s'aimer, ils passent de bon temps. Il y a des amis qui peuvent aussi bien s'aimer. Mais il n'est pas question de cet amour-là, et on va le voir ensemble. Première réflexion que nous devons avoir, c'est que s'aimer, c'est un impératif. C'est pas quelque chose de facultatif. C'est important de le comprendre que quand je dis Seigneur, je veux te suivre. Ouais. Tu veux suivre le Seigneur? Il va y avoir un impératif sur ton chemin. C'est d'aimer. Moi, j'ai pas d'autre. Faut que je choisisse d'aimer André. Faut que je choisisse d'aimer Michel. Hein, et les uns et les autres. C'est un choix. C'est une décision. Ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite la faculté, mais tout part déjà par un choix. J'en reviendrai à la fin du message. Donc, de bien comprendre que c'est un impératif. Hein, ce que Dieu nous a annoncé dès le commencement, hein, et ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Hein, et Romains 11, 13, 8, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Si je ne choisis pas d'aimer les uns les autres, je suis redevable. Parce que Dieu m'a tellement donné l'absolu de son amour dans la personne de Jésus-Christ, je suis redevable envers Dieu et envers mes frères si je libère pas cet amour. Deuxième réflexion, s'aimer, hein, c'est comme lui nous a aimés. Dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, hein, et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, c'est aime ton prochain comme toi-même. J'étais coiffeur à Paris dans le 15e arrondissement de 69 à 74 et j'étais coiffeur femme. Pardonnez-moi, je vous parle cœur ouvert. Des fois, je me dis, mais elles sont complètement folles, ces femmes. Les brunes veulent être brunes, blondes. Les blondes veulent être brunes. Les frisés veulent être défrisés. Et les cheveux raides veulent être frisés. Cherchez le problème. Elles veulent l'inverse de ce qu'elles ont. Vous savez, mais c'est qu'en devenant chrétien, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est que nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Nous avons du mal à nous estimer. Nous avons du mal à nous accepter. Et il y a un mal-être à l'intérieur même de nous-mêmes, il y a un mal-être. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même. Mais déjà, si j'ai un problème avec moi-même, forcément, je vais avoir un problème avec mon prochain. Vous comprenez ça? Bon, ça, c'est l'Ancienne Alliance. Et Dieu sait, quelque part, que nous étions un peu coincé là, on est coincé. J'ai un problème avec moi-même, j'ai du mal à m'accepter. Alors comment je peux faire pour aimer les autres? Mais Dieu sait, et Dieu sait qu'il nous a donné la loi pour nous emmener dans la dimension de la grâce. Que la loi, elle était un pédagogue pour nous faire découvrir la grâce. Hein, tout ce que nous étions incapables de faire, justement, Jésus est venu pour le faire, pour nous donner la capacité. Hein, de faire ce que Dieu veut depuis le départ. Il faut bien que l'homme reconnaisse qu'il en est incapable. C'est pour ça que tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais moi, j'ai déjà du mal avec moi-même, c'est forcé que j'ai du mal avec l'autre. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu, hein, et il nous a donné un ordre nouveau. Il est nouveau dans le fait que lui, il est la solution avec un grand S majuscule. Il est l'unique solution pour que nous puissions apprendre à nous aimer. Et croyez-moi, c'est quelque chose de central dans l'Église de Jésus-Christ, parce que les gens qui sont dans le monde observe l'Église, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je suis sûr que si vous avez des membres de vos familles qui sont pas chrétiennes, hein, ils vous passent au peigne fin, hein, et ils vous loupent pas, hein. Mais Jésus veut voir son amour au sein de l'Église de façon que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils reconnaissent que nous sommes les disciples de Jésus. À quoi? Parce qu'on va avoir des beaux programmes d'Église? Certainement pas. Parce qu'on va tout bien organiser? Certainement pas. À quoi? À la dimension de notre amour. À partir de là, quand il y a ça, il y a le cœur de Dieu qui va commencer à fonctionner entre nous. Et on va être mis devant nos échecs. Et on va les puiser où? Ben, là où il y a la solution. Ça va nous faire grandir dans ma relation avec Jésus, etc., etc. Et je vais puiser de plus en plus pour rester attaché à lui. Souvenez-vous que Jésus nous a donné une image du cep et du sarment. Quand on voit un beau sarment sur le cep, un bel grappe de raisin, c'est bon, hein, c'est superbe. Quel effort le sarment a fait pour devenir un sarment? Quel effort? Il n'a fait aucun effort. Il est venu comment? Parce qu'il y a la puissance de la sève du cep qui a permis le développement du fruit. Comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église? C'est cette nécessité d'être attaché au cep. Et comment je peux être attaché au cep? C'est en serrant sa parole sur mon cœur, en mettant sa parole en pratique, en n'écartant jamais sa parole, même si c'est au détriment de ma tradition, de ma culture, de mon éducation, de mes émotions, de mes souffrances, sa parole, je vais choisir qu'elle devienne prioritaire. Plus tu vas serrer sa parole, tu vas penser sa parole, tu vas méditer sa parole, tu vas la mastiquer, etc., plus cette sève, tu vas voir cette sève divine. Cette sève divine, elle va produire en toi. Quand vous avez des cultes personnels tout seul, entre quatre murs, vous êtes dans votre chambre ou salle à manger ou autre, et vous êtes avec sa parole, vous parlez à Dieu, vous réfléchissez à des moments, Dieu va utiliser un mot, une phrase, qui va faire bingo dans votre conscience. Je dis, Seigneur, quelle folie de penser ça. Vous voyez, il y a une épuration, il y a quelque chose qui va se faire là, dans cette intimité. Et tout est fait aujourd'hui pour que nous voler cette intimité. Tout est fait pour qu'on n'ait jamais le temps. Mais je te dis, si tu ne prends pas le temps, c'est le temps qui te prend. Racheter le temps. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que j'ai une autorité pour gérer mon temps comme je gère mon argent ou autre chose. Il faut que je gère mon temps. Il faut que je sache mettre les priorités pour apprendre à aimer, épouser sa parole, malaxer sa parole, d'être un homme et une femme de la parole. Et ce ne sont pas simplement ceux qui sont derrière les micros qui doivent le faire. C'est pas le boulot du pasteur. C'est chaque enfant de Dieu a besoin de connaître cette sève qui est le fruit de cette semence incorruptible qui va se développer. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse. Et quand cette sève commence à prendre forme en moi, oui, ma chair, elle diminue. Tout ce qui est incapable d'aimer, ça va diminuer. Tout ce qui est contre la pensée de Dieu, ça va diminuer. Mais il faut absolument que cette sève puisse se dégager de nous afin que vraiment nous puissions aimer comme Christ est resté attaché avec son Père. Jusqu'au bout, il a été attaché. Il était soudé avec son Père. Il parlait avec son Père. Il passait du temps avec son Père dans la solitude le matin très tôt, le soir très tard. Il était en communion avec son Père. Il n'a pas quitté la communion avec son Père. Et du coup, il manifestait les œuvres du Père. C'est le chemin. Une autre réflexion, c'est que cet amour, donc, bon, n'habite pas en moi, et j'ai souligné cette réflexion, je viens de le dire, mais l'apôtre Paul nous dit, ce qui est bon, je le sais, Paul le savait, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, et on a la volonté de s'aimer, ça, aucun doute, si on fait un sondage, 100%, on a tous la volonté de s'aimer, on a toute cette volonté. Mais non le pouvoir de faire le bien. Il faut que ça soit clair dans notre entendement parce que on se fait des illusions sur nous-mêmes. On pense qu'on est capable d'aimer. Moi, combien de fois, au début de ma vie chrétienne, pendant longtemps, hein, oui, mais jusqu'au jour où Dieu m'a laissé aller avec mes forces, même dans cette volonté d'aimer, jusqu'au jour où Dieu, tout d'un coup, devant une situation, une personne, tout ça, j'ai vu des réactions dans mon cœur. Je dis, waouh, ça. Et je suis venu à cette conclusion, Seigneur. Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas mieux que les autres. Nous sommes profondément pécheurs, mes bien-aimés. Dans nos racines, nous sommes profondément pécheurs. Je ne dis pas ça pour vous accuser, mais ça pour que nous puissions prendre conscience que ce qui est bien n'habite pas en nous. Dans notre chair, elle n'habite pas dans notre chair. Ça habite en lui. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le recevoir. Paul savait très bien, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il était conscient, vous imaginez, un grand apôtre comme ça qui dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Ah bon, l'apôtre Paul, ce n'est pas sérieux pour un serviteur de Dieu comme toi. Tu fais du mal ? Ça t'arrive, toi, André ? Tu fais du mal ? Toi aussi, tu fais du mal ? Ben, on est tous dans le même barque, hein, vous comprenez ? Mais c'est important de le comprendre parce que pour que nous puissions puiser tous ensemble là où il faut, pour que la parole de Dieu, elle soit absolument incorporée dans notre vie. Quatrième réflexion, c'est que l'amour vient d'en haut et il nous a été donné. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, 5. Je vous renvoie les références pour que vous puissiez revoir dans les Écritures. Donc, c'est un amour qu'on est obligé de recevoir. Ça vient d'en haut parce que ça n'habite pas en nous. Et c'est là que ça nous ouvre toutes les portes à l'espérance sur la capacité que les chrétiens ont pour rentrer dans cette dimension d'amour et pour enfin obéir à notre bien-aimé dans cette dimension d'aimer nos frères et sœurs. Et vous savez, quand je commence à être honnête envers moi-même, et que au lieu de voir le problème chez les autres tout le temps, c'est tout le temps les autres, c'est tout le temps les autres, Dieu il m'a fait le chemin inverse en me regardant dans une glace, il dit « Non, c'est ta réaction qui est un problème. Ce ne sont pas les autres qui sont un problème. Et j'ai permis que les autres soient autour de toi pour te faire réagir, pour que tu vois au fond de toi-même ce que tu as en vérité. » Et c'est là que j'ai découvert que moi qui pensais que je pouvais aimer, pendant un temps, je pensais, moi je croyais ça, parce que j'étais de bonne volonté, le Seigneur dit « Voilà. Regarde ce qui est dans ton cœur. » Et j'imaginais même pas. Et c'est pas beau. Hein. On est plein de jugements, plein de condamnations. Voilà ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais vous savez, ça nous pousse à une vie de repentance. Il suffit pas simplement de dire « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. » Oui, pour tous mes péchés, oui. Mais Dieu va vouloir ciseler tout ça, comme un grand artiste qui veut ciseler, terminer son œuvre. Il va mettre le doigt dans un domaine, un autre domaine, et du coup, je vais être dans une attitude d'humilité. Je vais comprendre aussi la difficulté de l'autre qui a du mal aussi à aimer, qui est en difficulté à aimer. Je vais le comprendre parce que, pourquoi ? Parce que Dieu me fait voir que je suis aussi comme ça. La compassion que Dieu a eue et la patience que Dieu a eue et la fidélité que Dieu a eue, Je ne peux pas faire autrement que la redonner après ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on voit dans Luc 7, 47, hein, que celui à qui on a beaucoup pardonné, mais il aimera beaucoup. Vous voyez, il y a quelque chose de proportionnel sur la prise de conscience de notre péché. Et il ne faut pas penser que le péché, c'est hein, être comme Nicky Cruz qui a tué et tout ça. Non, 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 non. C'est tout ce qui se farfouille dans notre cœur et qui est caché. Hein? Mais quand je prends conscience et que Dieu permet de remuer la vase avec un contact, c'est pour ça qu'il y a des problèmes relationnels dans les églises. Et il faut qu'on gère bien parce qu'on va tirer, de multiples bénédictions si chacun va s'examiner devant Dieu et au lieu d'accuser l'autre. Ah ben, il n'est pas comme ça, il a dit ça, il a fait ça au moins. Oui, ça, on peut en faire une grande liste. Et dire, Seigneur, oh, ma réaction. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ma réaction à moi. Et petit à petit, Dieu va affiner, va vous sensibiliser. Et là, vous allez grandir dans la dimension d'amour parce que vous recevez sa grâce quand il vous demande pardon. Dieu n'est pas venu pour anéantir le péché, il est venu pour le rétablir. Mais pour le rétablir, il faut bien dégager tout ce qui ne va pas. Et comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais qui sont cachées, même parfois dans notre conscience, il faut bien qu'il permette certains conflits dans une église pour que toute cette boue remonte et qu'on puisse s'humilier soi-même et qu'on soit biblique, qu'on vive ensemble vraiment l'évangile. Les obstacles à ça, il y a des obstacles, ça c'est des réflexions que je vous ai données pour réfléchir sur la direction à suivre. Les obstacles à ça, c'est que si je suis pas en paix avec Dieu, ça demeure impossible. Est-ce que je suis d'abord en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai reçu cette semence incorruptible dans mon cœur? Est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus comme mon sauveur pour le mettre en place comme mon Seigneur, sur mon cœur? Et qui dit sur mon cœur, c'est sur mon système même de pensée. Romains 10, 5, hein, de rendre nos... Non, 2 Corinthiens 10, 5, pardonnez-moi. De rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est là que Christ commence à être Seigneur. C'est lui qui prend la direction. C'est lui qui va... gérer ma vie parce que je vais vivre comme je pense et je vais vivre ce que je pense. Donc si il est Seigneur dans mes pensées, il y a toutes les chances que vous réussissiez pour vous aimer. Il n'y a aucun problème à l'amour. Il est notre réussite, c'est lui notre réussite. Mais il faut que Jésus soit à la bonne place. S'il n'est que le Seigneur dans un tiroir bien fermé, hein, mais il n'est pas Seigneur dans... la soumission de ses pensées à lui dans ma vie, ben c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Il est Seigneur quand lui, il est le maître de mes pensées et je choisis qu'il soit le maître de mes pensées. Je veux soumettre mes pensées et les rendre captives à l'obéissance de Christ. Là, Christ est Seigneur. C'est un travail, je dirais, au quotidien, ça. C'est un travail de disciple. Dieu ne veut pas que nous soyons les chrétiens du dimanche. Le Seigneur, c'est sérieux, il est à la porte. Il veut qu'on se prépare à ça. Qu'est-ce que je vais lui dire si j'ai tout le temps défendu mes droits? J'ai tout le temps défendu ce que je pense, ce que je crois. Ben oui, mais ce que tu crois, est-ce que c'est bien en harmonie avec ce qu'il pense, lui? C'est là que, vous voyez... Si je fonctionne avec la chair, je vais récolter selon la chair. Et les récoltes selon la chair, c'est les disputes, les querelles, les divisions, etc., etc. Vous connaissez Galates 5, 19, hein. Vous connaissez. Hein. Si je sème dans la chair, si je fonctionne simplement avec mes pulsions charnelles ou avec ma culture, mon éducation, mais il faut que je sois en paix avec Dieu. J'ai besoin de vraiment lui donner ma vie. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Ou est-ce que tout simplement tu as adhéré à une église protestante évangélique? Où il y a une ambiance sympa et il y a du bénéfice d'être dans une église? Est-ce que tu as simplement adhéré à ça? Parce qu'adhérer, c'est pas lui avoir donné sa vie. Quand tu as donné ta vie, il y a une coupure avec ton ancienne vie, comme l'apôtre Paul, hein, dans Acte 9. Que veux-tu que je fasse maintenant? La révélation que Christ est Seigneur, il est ressuscité, il a pas fait un demi-tour en arrière. Et pourtant, il avait son job, il était reconnu, il avait l'autorité, c'était un religieux, hein, il avait, jusqu'à la retraite, il avait sa sécurité. Mais à un moment donné, la rencontre du ressuscité va te mettre dans une insécurité humaine. Hello? Pour te projeter dans la sécurité divine. Que veux-tu que je fasse? Paul, il savait pas comment Dieu allait faire sa vie. Alors nous, on a la suite de l'histoire. Mais essayez d'imaginer les étapes. Hein. Mais est-ce que c'est que pour Paul ou c'est que c'est aussi pour nous? Est-ce qu'il y a eu cette coupure dans ta vie? Y a-t-il eu une coupure en ton fonctionnement humain, charnel? Ah ben moi, mes parents étaient chrétiens, ou ceci, cela. Moi, j'ai toujours été dans l'église et tout. Ok, mais à quel moment il y a eu une coupure? Une section, une circoncision de cœur, où je réalise que Christ est Seigneur. Il est Dieu. Je ne peux plus continuer comme s'il n'était pas là. La vraie révélation de Christ ressuscité me pousse à avoir une coupure. Arrêt sur image. Ah, maintenant, je ne sais plus quoi. Maintenant, conduis ma vie, quoi. Je veux me laisser conduire par toi. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Autre obstacle, c'est les illusions. Quand on se fait des illusions sur nous-mêmes, et quand Dieu nous met des fois des miroirs, des choses évidentes. Le premier miroir que Dieu nous donne dans le couple, c'est notre femme ou notre mari. Vous n'avez pas remarqué, non? Quand deux êtres se marient, qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein? On se promet amour, fidélité jusqu'à notre mort. Pour le meilleur, et des fois, doucement, et pour le pire. Mais quand le pire arrive, est-ce que là, ça fait disparaître la promesse? Hein? Est-ce que ça fait disparaître la... Non. Mais pour pouvoir aussi accomplir la promesse, il va falloir que je réfléchisse pourquoi, en s'aimantant, on peut tant se faire de mal parfois. Et si ma femme me redit plusieurs fois des choses et que je ne veux pas, c'est que je vais rester dans mes illusions. Parce que Dieu utilise nos femmes ou nos maris, vice-versa, pour être un miroir, pour avoir un vis-à-vis. Et en fin de compte, ça va être une bénédiction. Mais si je suis dans le déni en permanence, ben tu risques de rester dans l'illusion. Tu vivras jamais cette dimension-là. Attention de ne pas être dans le déni. Si la personne qui t'aime le plus te dit quelque chose, c'est qu'elle a suffisamment d'amour pour te le dire, c'est certainement pas pour te faire du mal. Ta femme ou ton mari ou alors tes proches ne sont pas tes ennemis. Ils ne sont pas tes ennemis. Ce sont des frères et sœurs qui sont aussi sous la grâce de Dieu. Et Dieu permet que le fer émousse le fer et l'homme émousse l'homme. Autre obstacle, ce sont les souffrances. Les souffrances que où nous essayons d'avancer avec Dieu avec des pactoles, avec des boulets aux pieds. N'oubliez pas que Dieu, il gère la souffrance de la même manière qu'il veut qu'on gère nos péchés. Il y a toujours un parallèle entre la gestion des péchés et la gestion des souffrances. Beaucoup de chrétiens gèrent leurs péchés, ils demandent pardon à Dieu, mais ils continuent avec un pactole de douleur, de souffrance. Alors que Job nous dit dans Job 36, 21, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » La souffrance va nous disposer au mal. Parce que quand on souffre, on a, comme disait un jour Michel, on a des lunettes colorées et on voit tout à travers nos souffrances. Et les souffrances du passé, même pas réglées depuis longtemps, tout d'un coup, une circonstance qui va te rappeler, ça va monter. Et tu ne vas voir que ça, mais tout le reste, tu ne vas pas le voir. Et du coup, on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas s'aimer comme Dieu nous le demande. C'est pour ça que, oui, vous avez réglé vos péchés, merci Seigneur. Mais je vous en supplie, mes bien-aimés, Réglez vos souffrances. Réglez, ne gardez pas vos souffrances en vous. Jésus, il a porté, il s'est identifié à toutes nos souffrances pour que nous ne puissions pas les garder. Vous ne pouvez pas courir avec des boulets aux pieds dans la course qui est devant vous. Combien de personnes souffrent de rejet, de mépris, de trahison, de calomnie, de toutes sortes de douleurs qui sont là à l'intérieur. Moi, l'autre jour, je disais quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je vous le dis quand même. Il y a quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à entendre, c'est « Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. » Alors, dans l'apparence, c'est super. Oui, ça va bien, la grâce de Dieu. Mais vous voyez, quand on me dit ça et que je sens qu'il y a tellement de couches sous le tapis, de douleurs, de larmes secrètes, peut-être des femmes qui pleurent toutes seules dans leur oreiller parce qu'elles ne savent pas comment faire. Mais bien aimé, l'Évangile nous donne la solution à tout ça. Nous n'avons pas le droit de garder nos douleurs et nos souffrances pour nous-mêmes. Vous devez inviter le Saint-Esprit pour vous aider à gérer tout ça. Et je me réjouis de ce que, dans le 24, vous avez un séminaire qui parle des pièges de l'offense. Je me réjouis de ce thème-là, parce que c'est tellement important. Tu ne peux pas être libre dans l'amour si tu es à l'intérieur. Tu vas simplement dire, tout va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tu es en train de mourir, tu es en train de crever, là. Tout va bien, par la grâce de Dieu. Non. Il faut que tu te laisses guérir. Pourquoi c'est important? 2 Corinthiens chapitre 1 nous dit que si tu te laisses guérir par Dieu, il va te rendre capable pour guérir les autres. Si tu te laisses, je recommence. Si tu te laisses guérir par Dieu, Dieu va te rendre capable. C'est la meilleure école de formation. Il te rend capable pour que tu sois un moyen, un ouvrier pour guérir quelqu'un d'autre. Ah, m'encourager quand même, hein, sympa. Relisez le premier chapitre de 2e Corinthiens. Nous avons aussi dans un autre obstacle qui est là, c'est le regard sur le défaut des autres. Hein, la Bible nous dit, ne nous jugeons plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Si tu, et un autre passage qui nous dit dans Matthieu 7, 5, si tu vois la paille, c'est ton frère. Ça, on envoie des pailles. OK, il n'y a aucun problème. Jésus ne dit pas de ne pas voir les pailles. Mais au moment où tu vois la paille, si je vois la paille dans l'œil d'André, à ce moment-là, si je vois la paille dans... Le Seigneur me dit, n'oublie pas, avant de parler à André, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Bien souvent, on a du feeling sur nos propres défauts qu'on voit chez les autres. Écoutez bien, c'est vrai ce que je vous dis, je ne vous raconte pas de bobards. On est très sensible parce que c'est presque le même problème. Du coup, on est sensible et on le voit. Ah oui, on le voit. Ça, pour le voir, on ne fait que ça. Ouais. C'est bien pour ça que Jésus il nous dit ça. Ben, regarde la poutre qui est dans ton œil. Et une fois que tu auras enlevé la poutre dans ton œil, ben, ensuite tu pourras enlever la paille chez ton frère. Parce que là, on rentre dans ce que je viens de vous dire dans 2 Corinthiens chapitre 1. Parce que Dieu, il va te rendre capable pour pouvoir aider avec beaucoup de délicatesse pour enlever la paille chez l'autre. Tu comprends ça? Mais si tu ne vois que les problèmes des autres, faut qu'on prie pour toi, quoi. Alors, et le dernier point aussi au niveau des obstacles, c'est de chercher notre gloire. Tellement de personnes ont vécu de toutes sortes de rejets dans leur vie. On ne nous a pas valorisés, surtout nous dans la mentalité française. Ah, t'es nul. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus encourageants. Ils vont chercher à mettre en avant, de valoriser les choses, mettre les choses positives, et ensuite, après, s'il y a quelque chose à corriger. Tandis que nous, en France, directement, on n'a pas le droit à l'erreur, t'es un nul, on fera jamais rien de toi. Qui est-ce qui n'a jamais entendu parler ça hein? Mais vous voyez, ça, ce sont des semences de rejet, ça. C'est des semences qui te... Le message, le code, tu ne vaux rien. Vaut mieux que tu meurs, vaut mieux que tu disparaisses. Mais alors, comme nous, on a des instincts de survie, du coup, ben non, on va surgir. Ah ben alors après, on va arriver en Rambo, quoi. Regardez-moi. Hé, hey, que tout le monde me regarde, là, hein. Et que ça marche. On va manifester une force humaine, là, parce que j'ai tellement besoin du regard des autres, j'ai tellement besoin qu'on me dise, ah, t'existes, ah, t'es bien. On a besoin d'être valorisé, vous comprenez ça? Mais alors, si t'empruntes ce chemin, tu vas être malheureux, hein. Parce que tu vas marcher déception sur déception, déception sur déception. Dieu regarde au cœur. Et il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui peut guérir ce problème-là. C'est quand je me sais accepter. Moi, ce qui a touché mon cœur, je savais tout ce qui était négatif dans ma vie. Et surtout par rapport à Dieu. J'étais très violent par rapport aux choses de Dieu. Et que lui vienne à moi avec tant d'amour, de grâce, et de sentir sa présence comme je l'ai senti, je dis « waouh ». Vous voyez, ça brise un bonhomme. Et ça brise aussi au niveau de notre ego, nos besoins aussi d'être aimé. Oui, je suis aimé. Je sais. J'ai besoin de rien faire. Parce que j'ai rien eu à faire pour qu'il manifeste son amour, sa grâce. J'ai besoin de rien faire pour être accepté. Quelle révélation de l'évangile! C'est vraiment une bonne nouvelle, l'évangile. J'ai besoin de rien faire pour être aimé. Avant même que je naisse, il était déjà mort pour mes propres péchés sur la croix. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. On n'a rien fait. C'est parce qu'il nous aime, comme il est dit dans Jean 3,16, tellement. J'aime bien ce tellement. Il nous aime, il déborde d'amour. Il ne veut pas que nous périssions. C'est tout son cœur. Alors, je vais terminer mon message sur deux choses encore. Le premier, c'est le chemin à suivre. Le chemin à suivre, Dieu nous fait voir dans 1 Timothée 4,9, où Paul nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Écoutez ce que Paul dit aux Thessaloniciens, il dit « Car vous avez vous-même appris de Dieu. » Vous avez vous-même appris de Dieu hein, à vous aimer les uns les autres. Ah, ça c'est un chemin important. Ça veut dire que c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Ne nous laissons pas culpabiliser parce que les défis sont tellement grands que c'est mission impossible. On essaye, on se dépatouille et des fois, en voulant corriger, on fait encore pire et on fait encore plus mal. Ça n'arrive qu'à moi, non? Vous comprenez ça? On essaye, mais on n'y arrive pas. Oui, parce qu'il faut apprendre. Il y a un apprentissage. C'est très important de dire, Seigneur, mais moi, je veux vraiment apprendre de toi. Les Thessaloniciens, ils avaient appris. Et l'apôtre Paul, il savait que les Thessaloniciens avaient appris à s'aimer mutuellement. Donc, il faut qu'on entre dans l'apprentissage. Et alors, comment on peut apprendre? Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour que j'apprenne? L'église locale. Écoutez, bien-aimés. L'église locale, c'est un centre d'apprentissage. Pour que nous puissions apprendre à vivre ensemble l'évangile. Nous allons, et c'est normal qu'il y ait des conflits, des difficultés dans les églises locales. C'est normal. Parce qu'on veut marcher à contresens, quoi. Mais comme on veut obéir, on va dans ce sens-là, mais avec nos incapacités. On est avec nos incapacités de toutes sortes. Je ne vais pas rentrer en détail pour faire court, mais on pourrait développer ça à une grande échelle. Mais donc, comment faire? Acte 2, 42, la Bible nous dit quatre persévérances importantes. Persévérance dans l'enseignement d'abord, l'enseignement des apôtres. Pourquoi des apôtres? Parce qu'ils ont été tous des témoins oculaires de ce qu'ils enseignaient. C'est pour ça que c'est rajouté des apôtres. Tous les apôtres qui ont écrit, qui ont enseigné, ont été des témoins oculaires de ce qui est écrit. Et le dernier témoin oculaire, qui est l'apôtre Jean, quand il est mort, il n'y a plus d'écrit au sein des Écritures. Vous comprenez ? Donc, les apôtres, l'enseignement des apôtres, ils sont témoins oculaires. Ils peuvent dire comment Jésus les a aimés et comment Jésus a tout donné pour que tous ceux qui les suivent vont avoir la capacité aussi de s'aimer. Et donc, cette persévérance de l'enseignement est capitale pour l'Église. Si tu persévères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de serrer la parole sur mon cœur. Deuxième persévérance, c'est la koinonia. Et la koinonia, c'est une communion étroite. Il faut que nous puissions nous voir, communiquer, vivre des choses ensemble. Moi, j'ai mis en place à l'Église un repas tous les dimanches midi, il y a un repas. Du 1er janvier au 31 décembre, après le culte, il y a un repas. Pourquoi ? Parce que c'est une occasion de pouvoir avoir un face-à-face, de pouvoir dialoguer, de parler, d'échanger. Et il y a beaucoup de choses qui se font autour d'un repas et d'apprendre à ne pas nous ignorer. On ne peut pas dire à un frère ou une sœur, bon, bonne semaine, à la semaine prochaine. T'as vécu quoi, là ? Oui, t'as vécu une heure ou deux heures de culte. Oui, mais... Et aussi, il n'y a rien d'autre. Il faut absolument qu'on apprenne à avoir une communion ensemble. Il faut que ça fasse partie de vos priorités, ça aussi. Dans la gestion de votre temps. Hein, si vous avez d'autres priorités, vous n'aurez jamais le temps de vivre la koinonia. Et pourtant, c'est absolument essentiel parce que, comme je disais, le fer émousse le fer et l'homme émousse l'homme. Hein? Ensuite, les autres, la fraction du pain, combien c'est important, parce que c'est là qu'on va discerner le corps du Seigneur pour voir si je suis en communion avec mes frères et sœurs. Et je ne prendrai pas la Sainte-Seine si je n'ai pas réglé mes problèmes. C'est pour ça que ça fait partie aussi des bases. Et ça finit par la persévérance dans la prière, parce que la persévérance dans la prière va manifester ma dépendance de la souveraineté de la grâce de Dieu. Vous comprenez, ces quatre persévérances, vous devez les retrouver dans votre vie. C'est indispensable. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux être un disciple de Christ, c'est indispensable. Ces quatre persévérances que tu trouves dans Actes 2, 42. Et c'est bien pour ça. Donc c'est en étant ensemble que, oui, peut-être des problèmes vont surgir, mais n'ayez pas peur de ça. Dis, ça c'est une opportunité pour que moi je grandisse. Le problème, c'est jamais mon frère. Et le problème, c'est ma réaction. Le problème, c'est pas mon frère. Le problème, c'est ma réaction. Et ça va être une opportunité pour travailler sur ta réaction. Après, avec ton Seigneur, en te repentant, en invoquant le sang de Jésus qui va te purifier. Mais du coup, tu vas grandir. Et c'est pour ça que Dieu dit, nous sommes appelés à vivre des choses injustes. C'est un privilège, c'est le privilège. Parce que même s'il y a une injustice, c'est pas mon problème. Même si mon frère a commis une injustice, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est comment moi je réagis. C'est ma réaction. Mon vrai problème, c'est ma réaction. Je sais pas si c'est le frère qui a dit ça tout à l'heure. Mais c'est notre réaction. C'est nous. Le problème, c'est nous. Est-ce que Acte 2, 42 se trouve dans votre vie ? Et si c'est tellement important que l'Église soit un centre d'apprentissage, dans un centre d'apprentissage, il peut y avoir des erreurs. Quand tu apprends un métier, moi, quand j'ai appris mon métier de coiffeur, vous croyez que j'ai su couper les cheveux comme ça du jour au lendemain ? Heureusement que j'avais une mère qui avait beaucoup de cheveux, donc un coup de ciseau mal placé, ça ne se voyait pas trop, mais il y a des erreurs. Mais il faut bien avancer pour ne plus commettre les erreurs. Et on grandit tous ensemble comme ça. Tous ensemble. Et si justement l'Église locale, elle est là, pas simplement pour faire des cultes, mais pour que on apprenne à grandir dans la mentalité de l'esprit de l'Évangile ensemble, quelle force qui peut se dégager pour le monde. Et c'est là que le monde va vous regarder et dire « Waouh !» Vous êtes différents des autres. Vous avez une qualité d'amour entre vous qu'on trouve nulle part. Vous n'êtes pas comme les autres. Ben, merci Seigneur. Et on pourra leur dire, ben, parce que Jésus est dans ma vie et dans mon cœur, il nous transforme. Et la vie d'Église, elle a un sens. Et c'est bien pour ça que dans Hébreux 10, 35, Dieu nous dit, mais surtout n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que si tu abandonnes l'assemblée parce qu'il y a un problème, ben tu peux abandonner toute ta vie les assemblées. Ou alors tu vas trouver une assemblée qui va convenir à tes émotions. Mais dans ce cas-là, tu vas pas grandir. Dans 10 ans, tu seras toujours le même. Ton caractère sera le même. Tes réactions seront les mêmes. Tu vas pas grandir. Moi, en 51 ans de temps, j'ai vu les gens qui sont partis d'une église ou d'une autre église, tout ça. Mais vous savez, ces gens-là, ils s'assoient sur un manège. Et le paysage, il est monotone. Hein. C'est monotone. Alors que ceux qui courent dans la course de l'avant, tu les vois 5 ans après, 10 ans après, ce ne sont plus les mêmes. Tu vois une beauté qui s'installe, une saveur qui s'installe, une nature de Christ qui est en train de se dégager de toi, une qualité d'amour qu'il n'y a pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que tu t'es laissé travailler par les moyens que Dieu a mis à ta disposition, qui est l'Église locale, qui est un vouloir de vivre l'esprit de l'Évangile ensemble d'abord. Ça ne sert à rien de prêcher l'Évangile dehors si déjà tu ne vis pas l'Évangile dedans. Il faut que les gens dehors, quand ils arrivent, il ne faut pas que l'Église soit une occasion de chute pour ces jeunes âmes. Il faut qu'ils trouvent des pères, des mères, des grands frères, des grandes sœurs. Il faut qu'ils trouvent des tuteurs, de façon que chacun, c'est la responsabilité de chacun de s'occuper des nouveaux et pour retransmettre toute la qualité que vous vivez déjà entre vous. Vous avez quelque chose là à transmettre, si vous le vivez. Allô ? Et je termine simplement sur l'importance du choix. Je vous ai un peu tracé quand même le chemin du plan de Dieu par rapport à l'Église, par rapport au fait de nous aimer les uns les autres. Mais Dieu est un grand gentleman. Il ne forcera jamais. Jamais. L'Esprit du Seigneur fonctionne dans un cadre de liberté. Toujours. Toujours. Il ne va pas faire du forcing. L'Esprit de Dieu fonctionne dans un cadre de liberté. Et comme Josué 24,15, il dit, mais maintenant, vous savez, en fin de compte, ce qui est bon pour servir l'Éternel. Et Josué dit, choisissez aujourd'hui. Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Nous le retrouvons toute notre vie. Et j'insiste là-dessus parce que qui d'entre vous sait si demain il sera encore en vie? Moi, je ne sais pas. Je souhaite la mort à personne, bien sûr, comprenez? Mais il faut avoir une grande prétention de savoir que demain, on sera encore vivant. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai enterré un jeune de 39 ans, hein. Un père de famille d'un petit garçon de 12 ans, une petite fille de 6 ans. 39 ans. Ça fait drôle de voir une tête de jeune dans un cercueil. Qui peut savoir si demain, on est là? Personne. C'est pour ça qu'on retrouve dans la pensée biblique, c'est le Dieu du aujourd'hui. Dieu n'est pas dans un système de temps. Il est dans le présent. Il est le je suis. C'est aujourd'hui qu'il faut trancher. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions. D'arrêter de regarder les défauts des uns, les défauts des autres. On a tous des défauts. Donc si on choisit pas, ben on va continuer à se critiquer, à se juger, à se condamner, etc. Hein? Mais si j'ai choisi de dire Seigneur, mon frère va être un outil que tu vas utiliser pour faire remonter la vase qui est peut-être cachée que j'ai même pas conscience, et ça va être une opportunité pour que émonder ça, nettoyer ça, laver ça, et petit à petit, un pas après l'autre, taille by taille. Dieu va nous faire grandir dans sa gloire et dans sa beauté. Aujourd'hui, j'ai besoin que mon choix soit total et radical. Matthieu 5, 37, Jésus nous dit que ton oui soit oui. Est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux emprunter ce chemin-là? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Et il dit, tout ce que tu rajoutes entre deux, ça vient d'où? Ça vient du malin. Qui, lui, n'a qu'un but de nous détruire et de s'opposer à l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, exhortons-nous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, hein, afin que chacun de nous ne s'endurcisse pas, notre cœur ne s'endurcisse pas. Exhortez-vous mutuellement. Édifiez-vous mutuellement. Exhortez-vous à cet amour. Exhortez-vous à ce que nous, dans l'apprentissage de s'aimer comme Christ nous a aimés et d'apprendre par lui, par les moyens de l'Église et du Saint-Esprit et notre choix d'arriver aux objectifs que Dieu veut voir au sein de son peuple. Amen. Je te remercie, Seigneur, de tout mon cœur. J'ai libéré, Seigneur, ta parole en comptant sur l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous as tracé la voie, et c'est une voie droite. Le monde a besoin de voir une Église qui t'aime et par ricochet qui s'aime. Devant toi, Père, nous voulons te demander vraiment pardon. Tous, chacun pour notre part. Nous savons que nous sommes tous concernés. Pas un seul d'entre nous n'est pas concerné. Et nous voulons prendre vraiment conscience que nous avons marché à côté des moyens que tu nous as donnés. Nous avons marché avec notre bonne volonté, c'est vrai. Mais elle n'a pas été suffisante parce que nous n'avons pas appris par les moyens que tu nous donnes à nous aimer vraiment les uns les autres. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à descendre dans chaque cœur. Tu dis que celui qui confesse son péché, tu es fidèle et juste pour lui pardonner. Et non seulement pardonner, mais purifier. Seigneur, tu purifies nos cœurs. Que l'Église vive dans une mentalité de pardon total. Que nous retenions rien, rien, aucune rancune, aucune mauvaise pensée. Mais que nous puissions nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Si nous sommes au diapason avec l'esprit de l'Évangile, qui repose sur la puissance et la grandeur de ton amour. Je te remets, Seigneur, toute cette Église qui est ton Église. C'est toi qui bâtis ton Église. Tu travailles les cœurs, les consciences, et que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, que vraiment elle puisse se poursuivre pour ta gloire, qu'elle soit consolidée dans cette mentalité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.